toi tu es assis sur ton trône, même quand les diables semblent s'élever contre toi, toi tu restes assis sur ton trône, même quand les problèmes viennent dans notre vie, toi tu restes assis sur ton trône. Seigneur notre Dieu, je sers ta gauche, je sers ta droite, je ne vois rien qui peut te dépasser, je ne vois rien qui peut te dérater, je ne vois rien qui peut te détourner. Et parce que tu es le Dieu indétrônable, nous acclamons, nous pouvons le cri de joie envers toi le Dieu, que rien ne peut détourner, se faire clamer très fort le Seigneur. Le Dieu que rien ne peut détourner. Le coronavirus ne peut pas les détourner. Les crises politiques ne peuvent pas les détrôner. La faim, la soif ne peut pas les détrôner. La montée du péché ne peut pas les détrôner. Il est un Dieu indétrônable. Un Dieu qui règne. Et parce qu'il règne, il veille aussi sur nos vies. Il veille sur notre histoire. Seigneur, sois béni. Sois glorifié, Seigneur. Sois avec moi danser. Dans ce temps où je dois penser à manger à ton peuple. Que je ne suis rien. Seigneur, qui peut parler mieux que toi, Seigneur? À Jérusalem, il y avait des enseignants, des docteurs éminents. Mais lorsque tu es venu, il y avait des gars qui ne parlaient pas comme parlaient les pharisiens. Oui, même un soldat s'est rendu compte qu'aucun homme n'a parlé comme Jésus. Seigneur, toi tu mérites de parler, Seigneur. Mais tu as voulu que ce soit, Seigneur, cette feuille morte, cette branche morte pour parler aujourd'hui. Utilise-moi, Seigneur. Enfin qu'il n'a pas touché. Dans les noms puissants de Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen. Et on peut acclamer très fort, levons-nous du pied. Le on s'élève et on acclame très fort. Le Seigneur, il est notre Dieu, il est notre roi. Le roi de notre vie. Le Dieu que nous invoquons, le Dieu que nous adorons. Le Dieu merveilleux. Les blancs disent à quelque chose malheur est bon. Je me rends compte que la télé avait ses avantages. Je suis devant la télé, tu peux avoir des stress, mais tu ne peux pas passer avec qui tu veux. Mais quand on est devant vous, vous regardez nos têtes. Mais je crois que le Seigneur me donnera la force de vous parler au nom de Jésus. Amen. Je dis merci au pasteur qui a pensé à moi. Notre frère Maurice. Je m'habitue à la télé, frère. C'est ce qu'il est. Et c'est ce qu'il doit être. Bien que c'est vraiment pas facile pour moi, personnellement, de la télé, frère. Mais je vais m'habituer à la télé, frère. Que le nom du Seigneur soit béni. Tout ça, c'était pour chasser les satans. Sans plus tarder, nous allons lire la Bible dans Genèse, chapitre 37, 1 à 8. Et le verset 16 à 20. Genèse 37, 1 à 8 et le verset 16 à 20. Genèse 37, 1 à 8 et le verset 16 à 20. Nous lisons au nom de Jésus. Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans. Regardez ce qui s'est passé. Ça commence. Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. On s'attend à d'autres détails, ça saute. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de... On n'a pas cité Ruben, on n'a pas cité Siméon, on n'a pas... Ça saute directement vers Joseph. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître les troupeaux avec ses frères. Dieu a eu les yeux fixés sur Joseph. Et aujourd'hui, le Seigneur aura les yeux fixés sur toi. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils. Écoutez bien, Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Nous verrons avec vous si réellement cette raison est valable. Parce qu'il avait eu dans sa vieillesse une fille, une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous. Ils les prirent en haine et ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe et il les raconta à ses frères qui les haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions liés des gerbes au milieu des champs et voici ma gerbe s'éleva et s'éteint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils les haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Verset 16 à 20. Joseph répondit, je cherche mes frères.
Dis-moi, je te prie, où ils font paître leurs troupeaux. L'homme lui dit, ils sont partis d'ici car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph alla après ses frères, il les trouva à Dothan. Ils les virent de loin et avant qu'ils soient près d'eux, ils complotèrent de les faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur des songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le, jetons-le dans une des citernes, nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. Seigneur notre, de quel complot? Venez, tuons-le, nous le jetterons dans la citerne et nous verrons ce que deviendront ces songes. Seigneur notre Dieu, un ennemi attend de voir ce que deviendra les songes d'un enfant de Dieu. Seigneur, s'il te plaît, ne laisse pas l'ennemi faire dans le nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort la parole de Dieu? La première fois que nous avions partagé cette pensée sur ce thème, écoutez donc le sens que j'ai eu, nous étions dans le confinement. Nous avions parlé des trois points. Dans les premiers points, j'avais dit que lorsque on regarde la réaction des frères de Joseph, j'avais expliqué d'abord le sens de quoi. J'avais donné deux définitions. La définition selon la Bible et la définition selon les dictionnaires français. Les dictionnaires français disaient que les songes, ce sont les fabrications de notre cerveau. Les occupations de la journée, ça crée des fabrications dans notre tête que nous vivons la nuit pendant que nous dormons. Donc des chimères, des inventions de notre cerveau pendant que nous dormons. Tandis que les dictionnaires bibliques disaient qu'un songe est un mystère, est une révélation, une pensée de Dieu sur ce qu'il veut faire ou sur ce qui était arrivé ou sur ce qui va arriver. Alors j'avais posé la question en disant, en regardant la réaction des frères de Joseph, quand il leur a raconté lorsque Joseph leur a raconté son songe, leur réaction prouve que les songes étaient, ils ont compris les songes de Joseph comme une invention de son cerveau ou comme un message qui vient de Dieu. Et la réponse était qu'ils avaient bel et bien considéré les songes de Joseph comme un message qui vient de Dieu. Et j'avais dit que si toi tu ne considères pas les promesses de Dieu sur ta propre vie, l'ennemi les considère. Si toi tu ne prends pas au sérieux les songes de Dieu sur ta vie, les rêves de Dieu sur ta vie, ton ennemi te prend au sérieux. Ton ennemi ne te traitera pas à la manière dont toi tu te vois, mais il te traitera à la manière dont ton rêve te présente. Amen. Le diable ne te traitera pas à la manière dont toi tu te vois. Lui te traitera à la manière dont ton rêve te présente. À la hauteur où ton rêve te présente, c'est à la hauteur où le diable viendra contre toi. Et c'est ce que nous avons dit. Nous avions parlé aussi du contenu du rêve. J'avais dit que tout dépend du contenu de ton rêve. Et j'avais expliqué que lorsque nous lisions les premiers sons, parce qu'il en avait fait deux, les premiers sons, c'est qu'il parlait que nous étions en train de lier des gerbes. Donc chacun avait sa gerbe, et la gerbe, c'est lorsque vous faites les champs, et puis les épis ont grandi, lorsqu'on les coupe, on les rassemble, c'est une gerbe. Et il a dit que chacun d'eux avait sa gerbe. Et j'avais dit aussi que Joseph s'est rendu compte que sa gerbe à lui s'est levée, tandis que la gerbe des autres s'était prosternée devant lui. J'avais dit, tout dépend du contenu de ton rêve. Joseph a été trahi par ses frères. Joseph on l'a accusé de tentatives de viol. Joseph a été jeté en prison, oublié pendant 2 ans, si je ne me trompe pas. Mais parce que dans les songes, Joseph s'était relevé dans la vie de Joseph, il a fini par se relever. Je vais te dire que quel que soit le chemin par lequel tu passes, quel que soit les péripéties par lesquelles tu passes, si dans l'histoire de ton rêve, tu avais vu que tu vas te relever, même si les épreuves arrivent, tu te relèveras. Tout dépend du contenu de ton rêve. Si dans le contenu de mon rêve, j'étais vaincu, si dans le contenu de mon rêve, j'étais terrassé, si dans le contenu de mon rêve, j'avais échoué, j'échouerais. Mais si dans la finalité de l'histoire, il y a eu beaucoup de combats, mais dans la finalité, n'a télémi, n'a roté les macaques. Je voudrais que tu sois sûr de ce que Dieu a prévu pour toi au côté des macaques, parce que dans le contenu de ton rêve, au côté des macaques. Et ça, c'était les pensées que nous avons partagées la fois passée. Aujourd'hui, nous allons parler de deux points. Je parlerai du un plan imposé et puis la qualité de ce que tu as reçu. Je parlerai de deux points, un plan imposé et la qualité de ce que tu as reçu. J'ai un plan imposé et la qualité de ce que tu as reçu. Un plan imposé. La tunique de Joseph, la tunique que son père a donnée à Joseph, la tunique de Joseph est l'expression de l'amour de Jacob pour Joseph. La tunique de Joseph est l'expression de l'amour de Jacob pour Joseph. Tandis que la tunique déchirée est Joseph et la présence de Joseph dans la citerne est l'expression de la haine des fils de Jacob envers leurs frères. Je répète. La tunique de Joseph, c'est l'expression de l'amour de Jacob pour Joseph, son fils. Tandis que la tunique déchirée et la présence de Joseph dans la citerne, c'est l'expression de la haine des fils de Jacob envers leurs frères. Quand un homme aime, il donne par amour. Amen. Quand un homme aime, il donne par amour. La plus belle expression de l'amour, c'est donner. La Bible déclare, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné. L'amour est dans l'incapacité de ne pas donner. Dès que quelqu'un aime, ça se sentira forcément par sa capacité à donner. Et notre Seigneur nous aime tellement que ça se sent par sa capacité à nous donner, à nous faire du bien. Bien-aimé, si tu es aimé de Dieu, il te donnera. Si tu es aimé de Dieu, il te fera du bien. Je ne sais pas qu'est-ce qui te dérange ce matin. Je ne sais pas qu'est-ce qui te tracasse. Je ne sais pas quel est ton souci que tu as ce matin. J'aimerais te dire que sache que tu es aimé de Dieu et il s'est destiné à te donner quelque chose. Tu es aimé du Seigneur, il s'est destiné à te faire du bien. Quand un homme aime, il donne par amour. Mais quand un homme te déteste, il blesse et il cherche à détruire. L'amour donne, la haine blesse et détruit. Et curieusement, Joseph fait partie des rares personnes sur la terre qui ont expérimenté les deux extrémités. Il a expérimenté l'amour excessif de son père et il a expérimenté aussi la haine farouche de ses frères. Très souvent dans notre vie, nous sommes soit dans l'un, soit dans l'autre extrémité. Soit on est bénéficiaire d'un amour excessif d'un allié, d'un membre de la famille, dans un domaine, dans un autre. Vous voyez, ça se fait sentir. Dans le travail, il y a des employés qui sont bénéficiaires de l'amour excessif de leur patron. Sentir, c'est vrai, les avantages, les primes, vous avez les congés payés. Vous sentez vraiment que oui, en tout cas, lui, vraiment, il est dans les cœurs du patron. Et il y a aussi des enfants, comme le cas de Joseph, qui bénéficient de l'amour excessif de leur père. La Bible déclare que même les enfants de Jacob sont rendus compte que Joseph est le plus aimé. Donc Joseph a bénéficié de l'amour excessif de son père. Mais aussi, Joseph aussi est passé par la haine farouche de ses frères. Très souvent aussi, certaines personnes se retrouvent aussi dans cette extrémité. Victime d'une haine farouche. Tu n'as rien fait, mais on te fait du mal. Tu n'as rien fait, mais tu es le sujet des calomnies, l'objet des mépris. Tu n'as rien fait, tu es le sujet des injustices. Tu n'as rien fait, on complote contre toi. Je me suis posé la question, qu'est-ce que ces petits frères ont fait à ses frères pour arriver jusqu'à la pensée de les tuer? Pourtant, entre nous les frères, si notre petit frère a fait quelque chose, corrigeons-le. Mais on veut aller jusqu'à l'extrémité de les tuer. Donc Joseph était dans ce domaine victime de la haine farouche de ses frères. Et très souvent aussi, les enfants de Dieu, c'est ce qu'ils rencontrent dans les entreprises. Des fois, quand vous parlez avec les enfants de Dieu, les réalités qu'ils rencontrent, vous vous rendez compte qu'ici, elle est victime ou il est victime de la haine farouche de son collaborateur, il est victime de la haine farouche de son patron, il est victime de la haine farouche de celui qui est devant lui. Vous sentez, on vous met des crocs en jambe, vous sentez que des demandes d'explications, tout ça simplement pour qu'on puisse s'écraser. Et ce sont des choses par lesquelles nous passons. Joseph était passé par les deux extrémités. Le cœur de Jacob, lorsqu'il regardait Joseph, il voit un héritier. Il voit qu'en tout cas, nous allons voir ça avec vous, il voyait un héritier. Ça, c'est vraiment celui que je laisserai une part plus qu'à ses frères. Tandis que le cœur des frères de Joseph, il voyait un rival à abattre. Il dit que d'un côté, Joseph était tiraillé par l'amour. De l'autre côté, Joseph était tiraillé par la haine. Chacun de ses extrémités avait le pouvoir de s'imposer sur sa vie. Jacob avait des plans pour Joseph. Et à cause de son amour, il avait sûrement un plan, un projet, un calcul, un planning pour son fils. Les frères aussi, parce qu'ils détestaient Joseph, ils avaient aussi un projet. Nous nous sommes rendus compte que et Jacob et les frères de Joseph, ils avaient tous les projets sur la même personne. Joseph était tiraillé à gauche, tiraillé à droite. Si l'un des projets ne l'emporte pas, c'est l'autre qui va l'emporter. Si l'amour ne l'emporte pas, c'est la haine qui va dominer. Et ce qui m'a fait du bien, c'est qu'entre les Dans le tiraillement entre l'amour et la haine, le plan de Dieu s'est imposé. Amen. J'aimerais te dire que lorsque tu seras tiraillé à gauche et à droite, le plan de Dieu s'imposera sur ta vie au nom de Jésus. Dans le tiraillement entre l'amour de Jacob et la haine des frères, le plan de Dieu s'est imposé. Pourquoi le plan de Dieu s'est imposé? Le plan de Dieu s'est imposé, pourquoi? Parce que malgré que Jacob aime, Jacob était dans l'incapacité de protéger Joseph. Jacob aimait au sommet, mais n'avait pas les moyens de protéger Joseph jusqu'au sommet. Je me suis dit que tu peux être aimé au sommet, mais la protection vient de Jésus. La protection vient de Jésus. La protection n'est pas garantie par l'amour, mais la protection est garantie par Jésus. Tu peux être aimé, mais être exposé. Et Joseph, de l'autre côté, il y avait la haine farouche de ses frères. À tout moment, Joseph serait seulement en danger. Il fallait que les plans de Dieu puissent s'imposer. Et ce que j'ai aimé, c'est que le plan de Dieu s'est imposé sans raison valable. J'ai dit que le plan de Dieu s'est imposé sans raison valable. Je me suis dit que le plan de Dieu dans ta vie s'imposera sans raison valable. Dieu t'a choisi sans raison valable. Dieu va t'utiliser sans raison valable. Dieu va te donner la promotion sans raison valable. Et nous allons voir ça avec vous. Revenons à ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit que, Genèse 37, verset 3. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils. Pourquoi? Écoutez la raison que la Bible essaye de donner. Pour qu'on essaye de comprendre un peu ce qui s'était passé. Parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Nous comprenons que Israël a aimé Joseph parce que Joseph c'est le fils de la vieillesse. Mais j'aimerais vous dire que cette raison n'est pas une raison valable. Vous savez pourquoi? Parce que Joseph n'est pas le cadet. Le cadet c'est Benjamin. Donc s'il devait avoir le fils de la vieillesse, c'est Benjamin. Mais curieusement, le fils de la vieillesse n'est pas le préféré de son père. Joseph n'est pas l'aîné, n'est pas le cadet, mais il est le préféré de son père. Je comprends que Dieu l'avait imposé sans raison valable. Je veux te dire qu'on analysera à gauche, on analysera à droite, on cherchera les critères des hommes, on cherchera la loi des hommes, mais Dieu va t'imposer sans raison valable. Il n'y a pas de raison valable pour laquelle Dieu t'a choisi, il t'a choisi seulement. Il n'y a pas de raison valable parce que tu es aimé de Dieu, il t'a aimé seulement. Joseph essaie de comprendre. Jacob essaie de comprendre. Moi, j'essaie de comprendre. La Bible essaie de comprendre, mais nous nous rendons compte que la raison pour laquelle Joseph était le préféré de son père n'est pas une raison valable. Il n'est pas le fils cadet. Et la Bible nous montre, je lisais quelque part dans Deutéronome, j'ai oublié le verset. La Bible nous montre que lorsque tu as, dans Deutéronome, j'ai oublié un peu le texte, la Bible nous montre que lorsque tu as deux femmes, à l'époque où il y avait la polygamie, même si tu n'aimes pas la première, tu vas lui donner tous ses droits. Et si la première épouse que tu n'aimes pas, ton fils aîné est de la première épouse que tu n'aimes pas, tu ne lui prouveras pas de son droit d'aînesse. La double part qui est réservée à l'aîné. Mais lorsque vous lisez vers la fin, vous vous rendez compte que Jacob dit à Joseph ceci. Je t'ai donné de plus qu'à tes frères, une part d'un terrain que j'ai acquis, des fils de Heth. Je me suis rendu compte que le droit d'aînesse qui revenait à l'aîné est venu entre les mains de Joseph. L'amour qui devait revenir à Benjamin est venu entre les mains de Joseph. J'ai analysé les critères des hommes. J'ai analysé même la loi de Dieu. Qui avait donné cette loi? Que tu ne vas pas priver le droit à l'aîné, même si c'est le fils de la femme la moins aimée, qui est la première. Tu vas lui donner son droit d'aînesse. Je me suis rendu compte que qui a donné cette loi, c'est Dieu lui-même. Mais le plan de Dieu vient contredire la loi de Dieu. Je me suis dit que Dieu t'a choisi sans raison valable. Le plan de Dieu contredit, entre guillemets, même la loi de Dieu lui-même. Je me suis dit que sous la terre, il n'y a aucune loi qui va t'empêcher d'être choisi par Dieu. Je me suis dit, sous la terre, il n'y a aucun critère des hommes. Il n'y a aucun système, il n'y a aucune habitude, il n'y a aucune coutume qui peut t'empêcher d'être aimé de Dieu. Mon frère, approche-toi de Dieu avec assurance, car le Seigneur s'est décidé de te faire du bien. Même la loi de Dieu n'est pas en mesure d'empêcher le plan de Dieu de te choisir. Même la loi de Dieu n'est pas en mesure de t'empêcher le plan de Dieu de t'imposer. Dieu s'est décidé de t'imposer. Est-ce qu'on peut acclamer ça fort pour le Seigneur? Même la loi de Dieu, il y avait des critères bien précis. Ce qui est sûr, c'est que nous connaissons que c'est tout à fait naturel. Les cadets bénéficient de beaucoup d'affection. Joseph n'est pas le cadet. Ce qui est sûr, Dieu lui-même a veillé, il a mis un système. C'est l'aîné qui a le droit de naître. Joseph a eu le droit de naître tout simplement parce que le plan de Dieu l'a imposé sans raison valable. Dieu t'imposera sans raison valable. Même si tu es dans le chômage, Dieu te donnera un travail sans raison valable. Même si tu es dans le célibat, Dieu te donnera un mariage sans raison valable. On se rend compte, on se dit, mais cette fille n'est pas belle. Oui, elle n'est pas belle, mais Dieu lui a donné un mariage sans raison valable. Dieu va t'imposer sans raison valable. Joseph t'apprend que tu peux soit vivre l'amour excessif, mais incapable de te protéger, et la haine farouche qui cherche à te faire du mal. Et dans ce tiraillement, le plan de Dieu va s'imposer dans ta vie. Alors, bien-aimé, choisis toujours le plan de Dieu, car il peut t'imposer sans raison valable. Et vous allez voir que même lorsque nous analysons ton histoire, Joseph a progressé sans raison valable. Vous suivez ton histoire, vous vous rendez compte que son père l'a aimé sans raison valable. Son père l'a donné le droit de naître sans raison valable. Il arrive chez Potiphar. La Bible nous montre que pour les Égyptiens, les Hébreux étaient considérés comme impurs. Manger avec des Hébreux, c'était une abomination. Je me suis posé la question. Lorsque Potiphar donne toute sa maison à gérer entre les mains de Joseph, est-ce que je donnerai ma maison à celui pour lequel je ne peux même pas accepter de manger avec lui? Mais, Joseph était un étranger. Et dans le pays, c'est connu que les Hébreux mangent avec eux. C'est une abomination. Mais Potiphar passe outre de ce que tous les pays sont en train de dire. Il lui donne la maison à gérer. C'est même dit qu'il y aura des gens qui passeront outre de ce que toute la terre est en train de dire. Ils vont t'imposer. Alléluia. Parce que le Seigneur t'a choisi sans raison valable. Il va passer par toutes les barrières. Peut-être que ta vie est en train, tu es en train de passer par des barrières successives. Tu vas sauter toutes ces étapes parce que Dieu essaie de t'imposer sans raison valable. Joseph arrive en prison. C'est le nouvel arrivant. Et deuxièmement, c'était un étranger. Dès qu'il arrive, il y avait des anciens, des doyens. Sûrement en prison, il y avait quand même des personnes qui avaient une certaine façon, une bonne façon de se comporter. Dès que Joseph arrive, on lui confie la gestion de la prison. Tu confies la gestion de la prison à un prisonnier. Je vous assure, Dieu ne tient pas compte du couloir dans lequel tu te tiens. Nous verrons ça avec vous. Dieu ne tient pas compte du couloir dans lequel tu te tiens. Même en prison, Dieu peut t'imposer sans raison valable. Je me te dis, quel est le secteur dans lequel tu te sens limité? Quel est le secteur de ta vie dans lequel tu te sens freiné? Quel est le secteur de ta vie dans lequel tu te sens bloqué? Je me te dis qu'il n'y a aucun secteur qui peut t'empêcher à être imposé sans raison valable. Quel que soit le secteur, Joseph a été imposé même dans la prison. Joseph a dominé même dans la prison. Même la prison. La prison où ce sont des malfrats. Nous voyons dans les films. Moi, ce que je sache, lorsque je regarde dans les films, nous regardons. Ceux qui dominent les prisons sont des gangsters. Ce sont des chefs de bande. C'est eux qui contrôlent les prisons. Mais c'est un nouvel arrivant qui est timide, qui ne cherche de prendre avec personne. C'est lui qui devait être le chef de tous les gangsters de la prison. Je me suis dit que Dieu te mettra au-dessus de tous les géants parce qu'il s'est décidé de t'imposer sans raison valable. Quelles que soient les difficultés par lesquelles tu passeras, tu dis, Seigneur, je sais que tu vas m'imposer sans raison valable. Les calculs de Dieu, lui seul en connaît les données. Mais quant à nous, nous constaterons que nous montons sans raison valable. Les calculs de Dieu, c'est lui-même qui connaît sa formule. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Dieu pour que lui qui a mis une loi, il la contredise par son plan, nous ne connaissons pas. Mais nous ne ferons que constater l'effectivité de son plan dans nos vies. Je me suis dit que nous n'avons pas à produire des efforts pour être dans la tête de Dieu pour comprendre ses calculs, mais nous avons seulement à avoir la foi pour constater son plan qui s'impose dans notre vie. Tu n'as pas besoin d'être dans la tête de Dieu pour calculer la place de Dieu. Il est Dieu, il n'a pas d'explication à te donner. Cependant, ton plan se réalisera dans ta vie, que le monde l'accepte ou ne l'accepte pas. Dieu va t'imposer au nom de Jésus. La qualité de ce que tu as reçu. Je me suis posé la question, quelle est la qualité de ce que tu as reçu? Quelle est la qualité de ce que tu as reçu? Je me suis posé la question, quel est ce rêve pour lequel les frères de Joseph se battent? Les frères de Joseph ne se battent pas pour n'importe quel rêve. Les frères de Joseph auraient pu se battre pour n'importe quel rêve. Mais curieusement, ils se battent pour un rêve qui engage leur destinée. Amen. Je me suis dit, c'est parce que ces rêves touchaient leur destinée. Si Joseph avait rêvé qu'il serait, je ne sais pas, premier ministre ou gouverneur, sincèrement, je ne crois pas qu'il aurait tenté de les tuer. Mais dès l'instant que dans ses rêves, ça implique Joseph et les autres se prosternant. Je vous assure, sincèrement, je ne sais pas ce que Dieu a voulu faire en ces temps-là. Dès cet instant où leur destinée ont été entre guillemets soumis au règne de Joseph, en tout cas, ils n'ont plus supporté ça. J'aimerais te dire, il y a des rêves qui créent des camps ennemis. Amen. Ne néglige pas tes rêves, parce qu'il y a des rêves qui créent des camps ennemis. Et ça, ce sont des rêves qui créent des camps ennemis. Joseph a connu deux camps. Le camp de Jacob, qui gardait le souvenir de ces choses. C'est vrai, il lui réprimande, mais oui, tu veux dire que moi, ta mère, tes frères et sœurs, nous allons nous prosterner devant toi. Mais après avoir dit ça, il garde le souvenir de ces choses. C'est-à-dire, il ressasse ça. Je rencontre que Dieu va faire quelque chose de merveilleux dans un peu d'état avec cet enfant. Mais de l'autre côté, il y a les camps ennemis, les camps des frères de Joseph. Ils se disent, comment ça? Nous, notre vie, nous avons nos projets, nous avons nos pensées, nous avons une hauteur dans la vie que l'on va se fixer et nous apprenons que quelque chose que nous ferons, il y aura quelqu'un qui va régner sur nous. Nous allons nous prosterner devant eux. Mes frères, ce sont des choses difficiles à accepter. Il faut avoir beaucoup d'humilité et cette humilité, il faut la demander dans la prière pour accepter que celui qui est à côté de moi, Dieu l'a établi pour régner sur moi. C'est pourquoi je te dis, ne néglige pas tes rêves et demande à Dieu la force pour bien la gérer. Il y a des rêves où si Dieu ne te donne pas certaines qualités, si Dieu ne te donne pas certaines sagesse, certaines maturités, tu peux créer des camps ennemis autour de toi. Et c'était le cas du rêve de Joseph. Joseph, quand il a parlé, sûrement il a dû parler parce qu'il voulait partager ce qu'il avait, Joseph avait créé des camps ennemis autour de lui. Il n'avait peut-être pas compris la portée de ce qu'il disait. Mais il y a des rêves qui ont des portées grandes qui nous échappent. Il y a des rêves qui ont des portées que nous ne comprenons pas, mais qui impliquent tout le monde. Autrement dit, ces rêves signifiaient que votre progrès est entre les mains de Joseph. Est-ce que vous comprenez ce que ça signifie? Ruben est dans la bergerie. Judas est dans la bergerie, ce sont des géants. Mais ils se rendent compte que celui qui est tout petit ici, notre progrès, notre histoire dépend de lui. Mais vous ne savez pas ce que ça signifie spirituellement. Ça veut dire que si tu veux monter, tu as besoin de lui. Si tu veux évoluer, tu as besoin de lui. C'est sur son conseil que tu iras loin. C'est sur son conseil que tu progresseras. C'est sur son conseil que tu t'affermiras dans la vie. Autrement dit, il a un mot sur ton devenir. Ça, je vous assure, ce sont des rêves à laquelle tout le monde ne l'accepte pas facilement. Ce sont des rêves dans lesquels tout le monde ne l'accepte pas facilement. Tout homme aimerait être le maître de sa destinée. Tout homme aimerait être le maître de son histoire. Est-ce que vous me comprenez? Tout homme aimerait être le maître de sa destinée, le maître de son histoire. Mais Dieu a voulu que sur la terre, il élève certaines personnes qui auront les mots à dire sur ton histoire. Et je vous assure, ces genres de rêves ne sont pas faciles à supporter. Ces genres de rêves exigent beaucoup d'humilité. Et même, je me dis, c'est parce que Dieu avait voulu aider moi pour le temps. C'est parce que Dieu avait voulu que ça se passe de la sorte. Sinon, si moi j'étais Joseph et que j'entendais que je voulais dire ça, je dis, mon frère, je comprends que tu ne le dises pas. Tu connais tes frères, il ne faut pas les dire. Tu es le fils de la femme aimée. Vu le contexte dans lequel tu es venu, c'est tes conseils d'attente. Ce sont des rêves à laquelle on n'accepte pas. Comment collaborons-nous avec les Joseph que Dieu a mis à côté de nous? Es-tu dans le camp de ceux qui seront des ennemis ou es-tu dans le camp de ceux qui seront comme Jacob, celui qui garde les souvenirs de ces choses? J'aimerais que tu réfléchisses. Ton attitude envers les Joseph établis à côté de toi déterminera ton sort. Amen. De tous les deux camps, le camp de Jacob et le camp des frères, le seul camp qui a demandé pardon, c'est le camp des frères qui étaient des ennemis. Je n'avais pas prévu ça, ça vient seulement comme ça. Donc écrivez ça, ce n'est pas prévu. Jacob gardait le souvenir de ses songes. Il avait déclaré que lorsqu'il a vu Joseph, il a embrassé Joseph, il a dit maintenant je peux mourir en paix parce que j'étais vilité dans la joie. Les frères ennemis de Joseph, parce qu'ils ont voulu combattre celui dont leur bonheur dépendait, ils ont été les seuls à demander pardon, les seuls à se retrouver en prison, les seuls qui avaient des problèmes avec leur conscience. Quand Jacob est mort, ils sont venus encore se prosterner. Jacob ne s'est jamais prosterné devant Joseph, parce qu'il n'a jamais considéré Joseph comme son ennemi. Les frères de Joseph se sont prosternés devant Joseph, parce qu'ils ont considéré Joseph comme leur ennemi. Je vais te dire, ton attitude de te prosterner ou de rester debout dépendant du camp que tu choisiras. Amen. Ton attitude de rester debout ou de rester prosterné dépendra du camp que tu choisiras. Quel est le camp que tu choisiras? Dis à ton frère, quel est le camp que tu vas choisir? Tu vas choisir quel camp? Tu vas choisir quelle direction? Je suppose que lorsque Joseph est en train de parler, J'aimerais que nous sachions, ce que j'ai dit ici n'est pas prévu, donc écrivez seulement que vous allez écrire. Ça vient seulement comme ça. Écoutez, ce que Joseph était en train de dire, à un certain niveau, c'était réprochable. Parce que, vu le contexte, on se rend compte que ce n'était pas vraiment peut-être le bon temps pour dire ça comme ça. Il fallait peut-être qu'il en parle d'abord à son père, et son père allait gérer ça à un certain niveau. Mais lui, il en parle auprès des fils qui lui rapportaient déjà les mauvais propos. Vous vous rendez compte? Donc déjà, à un certain niveau, ce que Joseph avait fait, je trouve que c'était pas sage, entre guillemets. C'était pas bien de le dire. Cependant, le sort de deux camps dépendait de la façon dont il traitait Joseph. Amen. C'est pour dire ceci, que Dieu peut établir un Joseph à côté de toi. Il aura des faiblesses et parfois il fera des choses réprochables que tu vois de tes propres yeux. Cependant, ton attitude d'être debout, de procéder, dépendant de la façon dont tu les traites. Amen. Ça dépendra de la façon dont tu les traites. Si tu prêtes attention à, entre guillemets, tes faiblesses réprochables que tu as vu de tes propres yeux, tu vas te prosterner devant lui un jour. Mais si tu dis, malgré qu'il est réprochable, malgré que je me rends compte que ce qu'il dit, ce n'est pas facile à accepter, mais je préfère mieux l'embrasser, bien aimé, tu seras toujours heureux à ses côtés. Si nous comprenons les choses comme ça, nous vivrons bien. J'aimerais te dire, garantis ton sort futur maintenant par ta position de maintenant. Amen. Sinon, l'objet au Koyoka Sony. Vous savez, celui qui a fait une faute, il fait demander aujourd'hui pardon, après demande pardon, après demande pardon, et après demande pardon. C'est ce que les frères de Joseph ont fait. Ils ont prosterné. Joseph a dit, c'est moi votre frère. Je vous ai pardonné. Oh non, pardonne-nous. Jacob est mort, il révèle encore. Non, pardonne-nous. Jacob a dit, nous sommes des serviteurs. Je n'ai jamais dit que vous êtes mes serviteurs. J'ai dit simplement que j'ai oublié. C'est pour dire ceci. La honte que tu auras d'être dans les camps d'un ennemi, ça va te poursuivre toute ta vie. Alléluia. Prépare ton sort futur par ta position de maintenant. Tiens ton frère, Bongisa, soit tu es Sengonayo, soit Sonia Lobby, la position de la Chikoyo. Arrange ta position. Il n'est pas parfait, elle n'est pas parfaite, mais elle arrange ta position. C'est vrai, il n'est pas parfait, mais apparemment, Dieu a mis des choses trop dangereuses sur cette personne-là. Alors je préfère mieux arranger ma honte future ou ma joie future. J'arrange ça déjà maintenant. La qualité de ce que tu as reçu. Les gens ne suivront pas n'importe quel rêve. Ils ne réagiront pas à n'importe quel rêve. Mais ils réagiront à un rêve qui touche leur destinée. Comment réagis-tu à celui qui a un rêve qui touche sa destinée? Comment protèges-tu celui qui a un rêve qui touche sa destinée? La qualité de ce que nous avons reçu se démontre par trois choses. La première, c'est notre attitude à entretenir ce que nous avons reçu. Je dis que la qualité de ce que nous avons reçu se démontre de trois façons. Premièrement, c'est par notre attitude que nous avons à entretenir ce que nous avons reçu. Deuxièmement, c'est notre vision que nous développons pour la chose que nous avons reçue. Et enfin, troisièmement, c'est le type de combat par lequel nous passons pour se battre pour la chose que nous avons reçue. Je disais que la qualité de ce que tu as reçu dépend premièrement de l'attitude que tu as à entretenir ce que tu as reçu, de la vision que tu as, que tu développes pour ce que tu as reçu, et aussi du combat que tu as mené pour ce que tu as reçu. L'attitude à entretenir pour ce que tu as reçu. La valeur de la chose que tu as va se démontrer par ton attitude à entretenir ce que tu as reçu. J'aimerais dire ceci. Il m'arrive des fois, lorsque nous sortons de... lorsque je sors pour venir à la veillée, des prières, des soutiens du pasteur, pour le soutien du pasteur, et depuis 22h, 22h30, vous passez par des couloirs et puis vous prenez... Vous voyez un certain taxi. Vous arrivez dans un coin sombre, vous voyez une jolie fille. Très belle fille. Belle détail, belle figure, des beaux yeux, une belle ceinture, une belle chérie, tout en place. Mais cette jolie fille-là, entre guillemets, permettez le terme, est en train d'être touchée par un petit voyou dans un endroit sombre, là où ça sent les urines. Je me pose la question, je me suis souvent posé la question. Je dis, c'est pas possible. Comment une jolie fille comme ça avec tout ce qui est en place en elle, peut se laisser entre être manipulée par un aventurier dans un coin sale. Une fois je m'étais venue, c'est parce qu'elle ignore ce qu'elle a reçu. Si tu vois une très jolie fille être manipulée par un aventurier, cette fille ignore ce qu'elle avait reçu. Parce que si elle savait ce qu'elle avait reçu, elle n'allait pas permettre à n'importe qui faire n'importe quoi ce qu'elle a reçu. Très souvent, nous traitons mal ce que nous avons reçu parce que nous ignorons la valeur de ce que nous avons reçu. Je vois souvent des frères qui négligent leur fiancée. Ils sabotent leur fiancée. La fiancée est méprisable, l'apparence négligeable. Il n'entretient même pas bien sa relation. Il la met mal à l'aise. Donc, j'aimerais te dire que cette femme-là que tu négliges, elle a des admirateurs secrets. Amen. Cette femme que tu sabotes, elle a des admirateurs secrets. Commets seulement l'erreur de la laisser tomber pendant quelques minutes. Tu pars et quand tu reviendras, tu trouveras le terrain occupé. C'est toi qui ne comprends rien. Si toi tu ne comprends pas la valeur de ce qui est entre tes mains, quelqu'un d'autre voit et se dit que si seulement tes frères commettent l'erreur. Ah, je vous assure. C'est que tu as est un diamant entre tes mains. Mais si tu ne connais pas la valeur d'un diamant, quelqu'un d'autre va te le ravir. Amen. Les frères de Joseph se sont rendus compte que Joseph a un diamant. Mais malheureusement, c'est un rêve. C'est un devenir. Les devenirs, on ne peut pas les toucher. La tunique qui était entre les mains de Joseph, ils l'ont ravi. Autrement dit, la tunique était aussi les diamants physiques que Joseph avait. Ils ont déchiré ça. Mais comme les rêves, on ne peut pas les déchirer, tuons-les et on verra ce que ces rêves deviendront. Ils enviaient les diamants que Joseph avait. Comme ils ne pouvaient pas l'atteindre, ils ont décidé de les tuer. Et toi, tu as un diamant entre tes mains et tu le négliges. Il y a quelqu'un qui a déjà fait sortir des griffes de la gare au bouger mouquet. Quand tu reviendras, tu trouveras le terrain occupé. Vous savez, même les hommes mariés, mes frères, les hommes mariés, prends soin de ton épouse. Parce que ton épouse a des admirateurs secrets. Oh, ici, à Bota, 5 enfants. Il y a un homme qui est prêt à la prendre avec ses 5 enfants. Tu commets seulement l'erreur de partir. Il se présente. Maman, ton mari qui quitte la maison pour aller au travail, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il va rencontrer au travail. Entretiens bien ce que tu as reçu. Car cet homme a aussi des admiratrices secrètes. Justement, tu commets l'erreur. Il m'a déjà épousé. Que je fasse l'effort, que je fasse pas l'effort, il est à moi. Le jour où il partira, quelqu'un d'autre va l'occuper. Vous savez, la nuit, je n'ai pas pu dormir. Parce que je devais préparer la prédication. J'ai parlé moi-même. Même quand on louait là-bas, j'ai parlé moi-même. Au bureau, j'ai parlé. Dans les textiles, j'ai parlé. Et la nuit, jusqu'à 2 heures, je n'avais pas sommeil. J'ai continué de parler, j'ai parlé tout seul. Et puis, je me suis dit, bon, je suis d'abord les informations. Je me suis rendu compte que même dans la vie pratique, ce que j'ai dit, c'est vrai. Je suivais que dans les informations, les troupes zambiennes sont entrées au Congo et ils ont déplacé nos bords, ils ont voulu occuper une partie de notre territoire. J'ai dit, c'est vraiment ça que j'ai vu. Ce que j'avais prévu donner. La Zambie est un grand pays. Ils ont l'air superficiels. Ils ont même des régions qui sont inoccupées, mais ils se rendent compte que bien que nous avons ce que nous avons entre nos mains, de l'autre côté, c'est un diamant. Ils analysent notre capacité à gérer notre diamant. Qui se rend compte que nous sommes faibles, ils viennent, ce sont des choses que nous vivons. Tu as une femme qui est ton diamant, tu la sabotes. Vous avez un pasteur qui est ton diamant, vous le sabotez. Un jour, ce pasteur vous sera ôté. Vous savez, il y a des frères, nous causons sur YouTube. Ils vivent loin, ils vivent à Kinshasa, à Lubumbashi, au Canada, en France. Ils vous suivent ici. Pour eux, nul qui était la distance, ils prieraient ici. Mais vous avez, c'est pour qui les autres auraient voulu prier ici, il est entre vos mains, comment vous les traitez? Comment vous parlez de lui? Lorsqu'on les critique, ceux qui parlent de lui, ce ne sont pas ses expériences, c'est nous-mêmes qui les critiquons. Ça, ce n'est pas pour les vanter, mais c'est ce que nous disons. Nous sommes dans les diamants, n'est-ce pas? La qualité de ce que tu as reçu dépend de ton attitude à l'entretenir. Ton pasteur, c'est ton diamant. Ta femme, c'est ton diamant. Ton mari, c'est ton diamant. Ton enfant, c'est ton diamant. Ton travail, c'est ton diamant. Ton appel, c'est ton diamant. Tout ce que tu as reçu qui coûte cher, c'est ton diamant. Comment tu l'entretiens? Mes frères, je vois les autres églises, entre guillemets, les grandes églises, avec leurs pasteurs. Je vous assure, la façon dont ils traitent leurs pasteurs, les adis, les papas, les bergers, les papis, les patriarches. Vous savez pourquoi que touche pas à son père. Le nôtre, il dit non, toutes ces histoires des adis, des papas, des patriarches, je ne veux pas. Appelez-moi seulement frère, mais je suis avec vous.
C'est celui-là qui se met à ce niveau, qui descend à ce niveau, je ne vais pas tout dire, mais je suis avec vous, c'est celui-là que nous martyrisons. Un jour, il vous sera ôté. Parce que votre pasteur aussi a des admirateurs secrets. Et ça, parce que bien, mais ça, là, c'est un déplacement, mais pourtant, vous soyez entre nos mains. On va bien l'entretenir. Gère bien ce que tu as reçu. Sinon, un jour, ça te sera ôté. Gère bien la femme que tu as reçue. Sinon, un jour, ça te sera ôté. Si tu as un diamant, bats-toi pour entretenir ton diamant.
Je me souviens encore lorsque j'étais nouvellement devenu responsable de la jeunesse, alors le pasteur m'avait dit, frère, tu as 6 mois pour trouver une fiancée. Alors, maintenant, j'ai regardé Sarah, et puis j'ai dit, bon, elle est jolie, effectivement. Et puis j'ai dit, non, je dois demander la volonté de Dieu, je dois prier. Puis j'ai regardé, oui, mais elle est jolie, elle est très intéressante. Oh Seigneur, est-ce que je dois aller, est-ce que je dois pas aller, est-ce que je dois aller, est-ce que je dois pas aller, est-ce que je dois aller, Seigneur, donne-moi des signes. Pendant que moi j'ai prié comme ça, papa, non, j'étais en train de m'interpréter petit. Et puis moi là, il me motivait, il me dit, ah bon, oui je veux, mais j'attends le rhéma du Seigneur, et puis j'attends la révélation qui va descendre. C'était le diamant que je voulais avoir, et moi j'attendais la révélation. Pendant que j'attendais la révélation, je vois un frère qui commence à... Je vois un frère commence à tourner autour, non. Je dis, Seigneur, la révélation depuis que j'attends, ça ne vient pas, je ne t'attends pas. Je dis, je vais utiliser l'autorité mocambienne. Je dis, ça va bien. Ces frères-là qui tournent autour de toi, là, je ne les sens pas. Tu vas attendre les derniers mots de ma bouche. T'as compris? Et puis moi-même, j'ai dit les derniers mots. Neko, osons louka diamant et puis tu traites ça à la légère. Bats-toi pour ton diamant. Bats-toi pour ton diamant. Bats-toi pour ton diamant, bats-toi pour ta femme, bats-toi pour ton appel, bats-toi pour ton ministère, bats-toi pour ta relation avec Dieu, bats-toi pour tes enfants, bats-toi pour tout ce que tu as reçu des valeurs. La qualité de ce que tu as reçu, te démontre par ton attitude à l'entretenir. La qualité que tu as reçue, te démontre par ton attitude à l'entretenir. Comment tu fais pour gérer ce que tu as reçu? Comment tu fais pour gérer ce que tu as reçu? Et ça m'étonne. Entretiens bien ce que tu as reçu. Entretiens bien ce que tu as reçu. Dieu te l'a donné. Apprends à l'entretenir. Très souvent, j'écoute cette phrase du pasteur. La borne a été gâtée. La borne a été gâtée. La borne a été gâtée. Et moi, je me pose des questions. Parce que très souvent, avec Dieu, c'est que Dieu donne, mais il donne dans une saison. Bien aimé, Dieu donne par saison. Il donne, la saison peut durer 10 ans. La saison peut durer 20 ans. La saison peut même durer 100 ans. Mais tôt ou tard, la saison finit par s'arrêter. Quand la saison s'arrêtera, Dieu posera la question, qu'as-tu fait de ce que tu as reçu? Jésus-Christ, le bébé de Jésus-Christ a fait beaucoup de miracles. Il a fait. Tout ce que j'ai dit, ce n'est même pas là. Je n'ai rien à dire parce que ce n'est pas écrit. Jésus-Christ a fait des miracles. Il a fait. Et puis à un moment, on croit que Jésus-Christ ferait toujours des miracles. Un jour, Jésus-Christ s'arrête. Il dit, Bethsaïda, tu as eu beaucoup de miracles. Tu n'as pas cru. Chorazin, tu as eu beaucoup de miracles. Tu n'as pas cru. Capernaum, tu as eu beaucoup de miracles. Tu n'as pas cru. Tu n'as pas accepté. Jérusalem, le Fils de l'homme est venu pour te rassembler. Tu n'as pas voulu. Désormais, il vous sera ôté. J'aimerais te dire, apprends à entretenir ce que tu as reçu. Car ce que tu l'as reçu, tu ne l'as reçu que pour une saison. Amen. Tu ne l'as reçu que pour une saison. Ta femme, tu ne l'as reçu que pour une saison. Ton enfant, tu ne l'as reçu que pour une saison. Ton travail, tu ne l'as reçu que pour une saison. Ton appel, tu ne l'as reçu que pour une saison. Tout ce que tu fais dans la vie, tu ne l'as reçu que pour une saison. Alors, apprends à bien l'entretenir. La qualité de ce que tu as reçu te fera voir par ton attitude à l'entretenir. J'avais donné l'exemple au départ, j'avais dit que la femme qui se laisse toucher par n'importe qui ignore ce qu'elle a reçu. J'avais aussi prévu aussi un deuxième exemple. Je disais aussi, j'avais donné cet exemple à la ville haute. J'avais dit que les pasteurs aussi qui changent les messages pour plaire à ces bandits ignorent ce qu'il a reçu. Ce que tu as reçu est valeureux. Ne te laisse pas intimider par n'importe qui. J'aimerais que tu dises à ton frère, ne m'intimide pas. Ne te laisse pas intimider par n'importe qui. Ne regarde même pas à côté. Ce que tu as reçu, les autres ne l'ont pas reçu. Par conséquent, regarde à ce que tu as reçu et apprends à valoriser ce que tu as reçu. Vous savez, je me souviens d'un jour où j'étais à l'hôpital, je suis fils de militaire, un jour je me faisais soigner à l'hôpital militaire du camp Rejaf. Alors, pendant que nous étions malades, À l'hôpital, on attendait qu'on nous fasse des examens. Il y avait une jeune ou un jeune infirmier, je ne me souviens plus si c'était une femme ou un homme, mais il y avait un infirmier là-bas qui donnait des soins. Nous avons vu un colonel, je crois à cette époque-là, c'était ça que commandait la région. Le colonel venait avec la fièvre, il venait en tremblant. Et on l'a amené par ses gardes, et les gardes les font entrer dans la salle des soins, il est en train de trembler. Je vois le colonel. Quand il entrait avec sa sécurité. Et je voyais des gardes à gauche, des gardes à droite, ils sécurisaient entre guillemets les périmètres. Ils étaient là avec des lunettes noires, ils ne riaient pas, des gens costauds. Et le colonel, là, les chefs en train de trembler comme ça. Ah. L'homme que nous voyons devant nous est un héros de guerre, décoré à l'armée, mais il vient devant une petite infirmière pour qu'on lui donne la dupirone. Et je voyais le colonel en train de trembler. L'infirmière dit que si tu as de la fièvre, on doit te donner la dupirone. Il dit, ah, Obi, Nazana Nambokao. Tu sais ce que j'ai fait à l'Est? J'ai défendu le pays. Moi, j'ai été décoré, regarde mes médailles. Oui, tu as tes médailles, mais par rapport à ton cas, c'est moi qui ai ce qu'il faut pour te guérir. Donc, j'aimerais te dire que chacun valorise ce qu'il a reçu. Quand je te créerai un couloir qui va te donner de l'honneur. Cet homme est un soldat de guerre. Il a fait des exploits, mais devant la maladie, il lui faut un médecin. Et je voyais le militaire résister à la dipyrone. Bien aimé, la dipyrone fait mal. Ça fait sincèrement mal, je vous assure. Cet homme a appris à dormir affamé dans les champs de bataille. Il a appris à recevoir des blessures, mais il ne supportait pas la dipyrone. On lui disait, tourne, quand il tournait là. Obinel Nazan Amboko, papa, balouka, gaga. Si tu résistes à quelque chose, ton titre, tu vas mourir. Je suis peut-être infirmier mieux âgé que toi, mais j'ai la sereine qui va te sauver. Je t'ai rendu honneur dans les grades de l'armée, mais Dieu m'a aussi honneur, Dieu m'a rendu honneur en faisant de moi les médecins qui va te sauver. Il y avait des cas que les riches et les pauvres se rencontrent et c'est l'éternel qui fait cela. Chacun de nous a son couloir à laquelle Dieu va le faire briller. Apprends à valoriser ce qui est en toi. Et je voyais, il était là, en colère. Les gars disaient, Mokondi, ça va passer. On a piqué, pia, il a pleuré, on a massé un peu, et puis c'est fini, et puis il se relève. Quelques temps après, la fièvre va baisser, il dit, allez, il dit à ces gars, on y va. Ah! J'aimerais te dire, il est grand dans son domaine, dans les champs de bataille. Il a été décoré parce qu'il est militaire. Il a défendu le pays, mais Dieu a fait en sorte qu'un jour il ait la fièvre pour qu'il vienne devant un petit infirmier qui n'a qu'une petite seringue. Mais si on ne lui injecte pas, il va mourir. Je me te dis que Dieu va te rendre utile à un niveau que si on ne t'approche pas, ils sont perdus. Dieu va te donner la valeur qui fera qu'ils ont tout, mais sans toi, ils n'ont rien. Dieu te donnera une valeur qui fera qu'ils ont tout, mais sans toi, ils n'ont rien. Parce que Dieu va te donner de la valeur. Dieu s'est décidé de te donner la valeur. Oui, peut-être que tu peux sembler être dans un milieu reculé. Peut-être que tu es entre guillemets Nabisika Bikaouki, on t'a jeté dans les lieux arides. Dieu créera une circonstance. Dieu créera une situation qui les obligera à collaborer avec toi parce que sans toi, ils n'ont rien. Je dis que pour ta vie, sans toi, ils n'auront rien. Pour leur vie, sans toi, ils n'auront rien. Dieu va te donner une utilité. Et ne te pose pas la question, ah, quand est-ce que moi, médecin, moi aussi un jour, je traiterai des grandes personnes, ne t'en fais pas, la fièvre viendra. Je t'apprends que la fièvre va frapper un grand. La fièvre va frapper les grands et ils vont courir. Si tu ne les soignes pas, ils meurent. Alors avec ce que tu as, valorise-les tranquillement. Le Seigneur va créer un couloir. Le Seigneur va créer une rencontre. Le Seigneur va créer une rencontre. Et pendant que j'écrivais cette phrase, j'étais en train de réfléchir au colonel de guerre qu'il était, étant décoré avec des galons et avec l'insigne, médaille d'honneur, médaille du courage, médaille du bravoure, et de l'autre côté, l'infirmier qui a le prix Nobel de la médecine. Chacun de nous aura le prix selon son couloir, l'autre aura le prix selon l'armée, et l'autre aura le prix sera la médecine. C'est pour dire que le prix de l'un ne sera pas supérieur à l'autre, et le prix de l'autre ne sera pas inférieur à l'un. Ce que Dieu te donnera ne sera pas inférieur à ce que Dieu a donné à l'autre. Chacun de nous sera grand dans ce que Dieu lui a donné. Alléluia. Tu seras grand à ce que Dieu t'a donné. On ne te laisse pas intimider. Ah, apparemment, nous avons aidé ta telle qu'à mon côté à tout le monde. Nous avons fait un retard à Yahoo. Alléluia. Tu vois les frères en train de se marier, les sœurs en train de se marier. Toi aussi, tu te marieras. Chaque mariage a sa façon de faire. Nous avons vu des mariages en plein confinement. Des mariages où on n'a pas eu besoin de salles de fête. Des mariages où j'ai vu les maris qui se marient, ils ont déjà grossi. Nous, à notre époque, lorsque nous étions de nous marier, on maigrissait. Yo, Kokolia, écoute où tu as la tenue, écoute où tu as le quoi? La salle de fête, ça va coûter cher. Mais il y a des frères qui sont mariés dans la salle de fête avec tranquillité. Ils sont mariés sans la salle de fête avec tranquillité, avec un nombre réduit.
20 personnes, 10 personnes, à baliner, à dépasser Mingiché. Je voudrais te dire que ce que Dieu va te donner aura une saveur particulière. Dieu a prévu de te donner quelque chose qui aura une saveur particulière. Dieu va te donner quelque chose qui aura une saveur particulière. Avec quelle attitude entretiens-tu ce que tu as reçu? J'aimerais m'arrêter ici pour que nous prenions 5 minutes pour prier. J'aimerais que, avant que nous prions, que tu t'examines. Nous allons prier pour 3 sujets. C'est pourquoi j'ai voulu que de finir avec 5 minutes d'avance. Nous allons prier pour 3 sujets. Nous allons prier d'abord pour toi-même. Si jusqu'à présent, tu as saboté ce que tu avais des valeurs, tu vas demander pardon à Dieu. Tu vas dire, Seigneur, j'ai péché, je ne comprenais pas ce que j'avais reçu avec de la valeur. Et après, tu vas dire à Dieu, Seigneur, maintenant, je veux apprendre à valoriser ce que j'ai reçu. Deuxièmement, nous allons prier aussi, j'aimerais que nous prions aussi pour un sujet très important, pour l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous faisons pour entretenir ce que nous avons reçu? C'est de notre devoir de prier pour lui. C'est de notre devoir de l'encourager. C'est de notre devoir de le fortifier. C'est de notre devoir de le protéger. C'est notre devoir de le protéger. Car c'est le diamant que Dieu nous a donné. Mais j'aimerais aussi que nous prions aussi pour ces pays, pour finir. Ces pays aussi est notre diamant. J'aurais peut-être voulu naître américain. Le peuple est le plus puissant au monde. Dieu a fait de moi congolais. Je ne vais pas renier ma nation parce que mon pays fait n'importe quoi. Au contraire, je vais prier pour mon pays. Est-ce qu'on peut s'élever ensemble pour parler au Seigneur? Si la musique peut juste balancer un chant, même sans parole, mais juste une mélodie, nous allons prier tous ensemble. C'est mieux que nous prions d'abord. Regarde d'abord ta propre vie. Si tu as été touché par ce message, lève-toi. Quelle attitude as-tu pour entretenir ce que tu as reçu? Comment entretiens-tu ce que tu as reçu? Comment traites-tu ton corps? Comment traites-tu ta femme? Comment traites-tu ton mari? Comment traites-tu ton enfant? Comment traites-tu tes affaires? Comment traites-tu ton travail? Comment traites-tu ce que tu as reçu? Comment te comportes-tu dans les études? Comment te comportes-tu dans ta maison? Comment traites-tu le paix de choses que Dieu t'a donné? Comment entretiens-tu ce que tu as reçu? Si jusqu'à présent tu as saboté ce que tu as reçu, si jusqu'à présent tu as négligé ce que tu as reçu, si jusqu'à présent tu as saboté de bien entretenir ce que tu as reçu, l'occasion de te donner de demander pardon au Seigneur. J'aimerais que nous élevons la voix au Seigneur. Mais si tu as bien entretenu, dis à Dieu, Seigneur, donne-moi la sagesse de bien valoriser ce que tu m'as donné. Élevons la voix, j'aimerais nous entendre prier. Est-ce qu'on peut élever la voix pour parler au Seigneur? Donne-nous l'intelligence de valoriser ce que tu nous as donné. Donne-nous l'intelligence de mettre au sérieux ce que tu nous as donné. Donne-nous l'intelligence de donner de la valeur à ce que tu nous as donné, Seigneur notre Dieu. Seigneur, tu as donné à chacun un diamant. Il n'y a personne sur la terre que tu n'aies pas donné un diamant. Il n'y a personne sur la terre que tu n'aies pas donné un diamant. S'il te plaît, Seigneur notre Dieu, fais le voir. S'il te plaît, pardonne cette fille, Seigneur notre Dieu, qui a livré son corps pour $100. Pardonne, Seigneur, ses frères qui s'est livré à l'homosexualité, Seigneur notre Dieu, pour un poste de travail. Pardonne ces bien-aimés, Seigneur notre Dieu, qui ont livré leur vie, qui ont signé des pactes, Seigneur notre Dieu, mais le voir ignorant ce que tu avais mis en eux. Pardonne cet homme qui a négligé sa femme. Pardonne cette femme qui a négligé son mari. Pardonne ces enfants qui ont négligé leurs parents. Pardonne ces parents qui ont négligé leurs enfants. Seigneur, pardonne. Pardonne, Seigneur notre Dieu, ceux qui ont mal entretenu ce que tu as reçu. Pardonne, Seigneur notre Dieu, ceux qui ont mal entretenu, Seigneur, ce qu'ils ont reçu, Éternel des armées. S'il te plaît, je veux, Seigneur notre Dieu, roi de gloire, que tu les aides à valoriser. Que tu les aides à valoriser. Que tu les aides à valoriser ce qu'ils ont reçu. Seigneur notre Dieu, valorise, Seigneur notre Dieu, ce qu'ils ont reçu. Qu'ils évoluent dans quelque chose. Qu'ils grandissent dans quelque chose. Qu'ils évoluent, qu'ils progressent dans quelque chose. Seigneur notre Dieu, valorise, Seigneur. Valorise tes enfants. Valorise tes enfants dans un domaine. Valorise tes enfants dans une situation. Valorise tes enfants dans un poste. Valorise tes enfants dans un foyer. Valorise, Seigneur notre Dieu. Valorise. J'aimerais que nous élevons la voix et que nous prions pour les serviteurs de Dieu. C'est le diamant que Dieu nous a donné. Nous n'avons pas un autre diamant que Dieu nous a donné. C'est le diamant que Dieu nous a donné. Disons à Dieu, Seigneur, aide-nous à bien l'entretenir. Prends soin de lui dans tous les domaines. Soutiens-le, fortifie-le, défends-le. Est-ce qu'on peut lever la voix pour parler au Seigneur? Seigneur notre Dieu, s'il te plaît, Éternel des armées, c'est le diamant que tu nous as donné pour nous nourrir. C'est la source que tu nous as donné pour nous arroser, Éternel des armées. Le Seigneur, notre Dieu, c'est le boulanger que tu nous as donné pour nous fabriquer le pain qui nourrit l'âme. C'est notre Dieu, s'il te plaît, prends-lui en charge, soutiens-le, défends-le. C'est notre Dieu, réponds à ses problèmes, Seigneur. Délivre-les dans ses combats éternels des armées. Délivre-les dans ses luttes éternelles des armées, Seigneur notre Dieu. Délivre-les dans ses soucis, Seigneur notre Dieu. Prends-les en charge, Seigneur notre Dieu. Seigneur notre Dieu, s'il te plaît, éternel ami, il a besoin de toi, Seigneur. Nous voulons nous positionner et prendre la position du bon camp, éternel ami. Nous voulons nous positionner et prendre la position, Seigneur notre Dieu, relatif au bon camp, éternel ami. Nous serons dans le camp des gens qui l'embrassent et non dans le camp des gens qui se prosternent par honte, Seigneur notre Dieu. S'il te plaît, éternel ami, nos destinées sont entre tes mains, éternel ami, s'il te plaît. Prends-les en charge, soutiens-les, défends-les, souviens-toi de sa famille, de ses rêves et de ses projets. Tes rêves pour lui ne sont pas morts, Seigneur. J'aimerais pour finir que nous prions pour notre pays. Élève la voix, nous n'avons pas d'autre pays. Tu n'es pas américain, tu n'es pas japonais, tu es congolais. J'aimerais que tu élèves la voix pour cette nation. C'est notre pays, la terre que nos ancêtres nous ont léguée. Que le Seigneur se souvienne de cette nation. Si nous n'avons pas la force, Dieu peut intervenir et nous donner la force. Dieu peut nous faire relever la tête. Que Dieu relève la tête à ce pays. Seigneur notre Dieu, relève la tête à notre nation. Relève la tête aux institutions, tant nationales que provinciales. Souviens-toi de ce pays qui se bat depuis plus de 60 ans, Seigneur. Seigneur, vois les sang qui a coulé jusqu'à présent. Vois les larmes qui ont coulé jusqu'à présent. Vois les balles qui ont crépé jusqu'à présent. Seigneur, souviens-toi de cette nation, Seigneur notre Dieu. À chaque peuple, tu leur as donné son territoire. À chaque peuple, tu leur as donné son histoire. Seigneur, la nôtre, nous l'attendons, Seigneur notre Dieu, jusqu'à ce qu'elle décolle. S'il te plaît, fais décoller ces pays. Dans les noms puissants de Jésus-Christ, notre Dieu, fais-le voir. Nous avons ainsi prié. Amen. Thank you.